radio. Radio, radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
We're gonna have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui...
S'écoute.
Cette fois-ci, une émission un peu particulière parce que nous allons vous diffuser, à la suite de cette petite introduction, une fiction sonore réalisée par Clémentine Carrier. Parce que le cinéma, ça s'écoute, mais le son, ça s'écoute aussi. Et que le son est mêlé au cinéma parce que Clémentine Carrier, qui a fait cette fiction sonore, est aussi photographe et réalisatrice. Bonjour Clémentine.
Bonjour Hugo.
C'est la classe comme présentation.
J'aurais pas fait mieux.
Alors du coup, voilà, cette fiction dure 23 minutes et elle a été réalisée dans le cadre d'une expo photo.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une expo photo qui a en ce moment à l'espace Saint-Cyprien à Toulouse jusqu'au 15 mars. Et qui est une expo collective où on est 7 photographes à exposer notre vision de Guétari, qui est dans le Pays Basque. Et donc c'est une expo autour de la mer. Et moi j'ai choisi de présenter des photos et du son, et de créer une espèce de narration sonore autour des images.
D'accord. Et comment est venu ce projet? Comment ça a débuté? Comment
Alors,
ça s'est construit?
Ouais, c'est un projet qui s'appelle Itsasoan, qui veut dire « dans la mer » en basque, qui est à l'origine de Pierre Montagnès, un des 7 photographes et amis avec qui on fait cette exposition, qui avait une maison là-bas et qui, pour des raisons personnelles, était sur le point de la vendre. Et pour garder une trace de ce lieu si particulier, il a proposé à des amis photographes et pas que, de venir immortaliser un peu cet endroit. Il a fait ça il y a 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc on a travaillé en collectif par à-coup, c'est-à-dire qu'on faisait des allers-retours là-bas, depuis avril 2016, je crois.
Et du coup, vous avez créé des liens, c'est un travail personnel autour d'un univers commun, ou il y a des liens qui vont se faire, qui sont créés des contraintes entre vous?
Alors, en fait, le point de départ, c'était vraiment d'allier... on a des démarches qui sont très différentes. Les 7 photographes, c'est Erima Navi, Pierre Montagnès, Maya Paulès, Luc Siné, Géraldine Villemain et Michael Zermati. Et nous 7, on a vraiment des démarches qui sont très différentes. Luc, par exemple, se dit pas photographe, il est plutôt plasticien, je pense. Et le principe, c'était vraiment de mettre en commun des démarches très différentes et de surtout pas s'inter-influencer de trop pour qu'on garde des individualités. Et ça a été le point de départ, vraiment. Et ensuite, dans la recherche de comment mettre en commun ces images... Bien entendu, il y a des passerelles qui se sont faites, et notamment pendant pour créer l'exposition, quoi.
Et du coup, toi, comment t'en es arrivé à vouloir intégrer du son dans ton travail?
Alors, le point de départ de mon travail, c'est vraiment le lieu dans lequel Pierre nous a invités. C'est-à-dire qu'il avait un appartement qui était face à l'océan et qui était dans l'ancien casino de Guétari. L'appartement numéro 5 de l'ancien casino, et qui est un lieu incroyable, qui a été le premier lieu à accueillir des touristes parisiens, avec les premiers thermes et casinos en France, puis à accueillir des réfugiés espagnols, repris par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, bombardés par les Américains, laissés à l'abandon pour devenir une discothèque pourrave des années 80, rachetés par des promoteurs immobiliers. Enfin, c'est un lieu qui, en lui-même, contient, genre, toutes les transformations de notre société des années 20 ou 1900 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et je photographiais là-bas et j'écrivais aussi une histoire qui se passait dans les années 30 autour de ce casino. Et depuis le début, je menais comme 2 projets sans savoir lequel des 2 j'allais suivre, soit les images, soit le texte. Et je me suis rendu compte que les 2 s'inter-influençaient et que ce dont j'avais envie, c'était de raconter une histoire qui se passe le 17 juillet 36, qui est le jour de l'invasion de Franco, du putsch de Franco. Et mon histoire raconte en gros un personnage espagnol qui s'appelle Paula, qui est au courant que la guerre a éclaté et qui doit l'annoncer à ses amis, qui font la fête dans le casino, quoi. Et c'est sur le déni et l'impossibilité, genre, de raconter quelque chose comme ça. Et les images traitent aussi de comment on se fourvoie, de comment on a du mal à voir les choses, quoi. Enfin, j'ai essayé de faire ça.
Et c'est intéressant parce que, pour revenir sur le cinéma qui s'écoute et le son qui se voit aussi, c'est que j'ai l'impression de son travail qu'on... Enfin, moi, je me suis plus figuré le casino en écoutant le son qu'en voyant les images. Il y a un côté un peu paradoxal là-dedans où, dans tes images, on est sur quelque chose de diaphane, quasiment invisible.
Un peu vaporeux. Ouais. Ouais, c'était vraiment l'idée que le son soit la vraie trame et qu'avec le son, on crée des images. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu pourrais faire des expos photos que de son. Je suis sûre que laisser la place, comme à la lecture, en fait, de laisser la place à l'imaginaire, ça crée des images, quoi. Et que les images qui résultent de mon travail soient comme des toutes petites fenêtres et qui sont beaucoup plus dans la sensation que le texte, peut-être. Enfin, en tout cas, pour moi, il y avait une recherche comme ça de granuleux, c'est des images argentiques en noir et blanc que j'ai tirées moi-même et où j'ai cherché à trouver un peu la matière, quoi, un peu du souvenir. Et
du coup, tu as écrit ce texte, tu as eu envie de le mettre en son. Comment tu as procédé par la suite?
Alors du coup, le processus, c'est-à-dire que l'écriture et les photos, j'étais seule, et que pour arriver à une pièce sonore, il me fallait vraiment des amis et collègues. Et donc le travail a été en plusieurs étapes. J'ai d'abord proposé le texte à une amie qui s'appelle Chloé Sarah, qui est comédienne, qui a accepté de le lire. Et à Aurel Garcia, un ami qui est monteur et mixeur son, avec qui on a travaillé sur toute la trame sonore, la manière d'agencer tout ça. Et avec un groupe de musique qui s'appelle Interheim, à la mise en musique de la pièce radiophonique, quoi. Et genre, sans ces trois alliés-là, ça n'existe pas, quoi.
Très bien, on va écouter ça maintenant. Ah, et les dates. Ah ouais, les horaires, tout ça. Donc c'est à l'espace Saint-Cyprien.
Oui, tout à fait. C'est à l'espace Saint-Cyprien, qui est au métro Saint-Cyprien à Toulouse. Jusqu'au 15 mars et c'est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, sachant que c'est fermé le samedi dimanche.
Voilà, donc si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez quand même y aller aussi pour voir si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que les autres œuvres qui sont là-dedans. Comme il y a des choses très différentes,
tout à fait.
Au moins dans tous les cas, vous trouverez quelque chose à voir, je pense.
J'espère.
Voilà. À bientôt les clapistes.
Merci.
Salut.
Les écailles de la mer. 17 juillet 36. Une nuit où la lune éclaire le dessus de l'eau, Paula se tient debout, mal, sur le devant de la barque. Ricky pagaie, les veines de ses avant-bras à fleurs, intrépide de sa présence. Paula, saoulée au mauvais vin, ne se rend compte de rien. Elle concentre ses yeux pour voir la bâtisse qu'ils approchent au loin, impatiente. Elle tient dans sa main son billet pour la soirée. Un gros billet. Ricky le remarque. Vous jouez souvent ? Elle ne répond pas. On m'a dit, s'il faut jouer, c'est le samedi. C'est là qu'il y a la meilleure ambiance. Les filles de Marthe. Il allait continuer, mais se tait. Elle regarde toujours le bâtiment. Sa robe est ouverte dans le dos, en V, échancrée jusqu'à ses reins. Devant aussi, elle est décolletée. Il l'a remarqué lorsqu'elle est montée. C'est comme si elle portait une robe trop vulgaire pour elle, empruntée à une amie et enfilée pour l'occasion, décalée. Tout à coup, elle se retourne. « Je veux plus y aller. » Paula a un accent fort, d'Espagne. Quelque chose qui chante, rabote les consonnes et laisse ses phrases dans le fond de la gorge. Ricky la regarde, mais continue de pagayer mécaniquement. Ramenez-moi, j'ai changé d'avis. Alors qu'il ralentit un peu ses gestes, Elle vient s'asseoir à côté de lui. Côte à côte, au milieu de l'océan, leurs coudes collés, Ricky attend que Paula se décide. L'intimité de la petite barque, là, dérange Ricky, inconfortable d'elle. Je peux vous ramener au voilier, c'est ce que vous voulez ? Non. Ses grands yeux noirs sont ouverts au point où ses cils touchent ses sourcils, effrayés. Non. Non, non. Paula regarde le casino face à eux. Je vais y aller. C'est juste... Faut que je me prépare. Elle cherche au sol, abrupte. La tête lui lance. Attrape une bouteille de vin, presque vide. Boit d'entrée. La tend à Ricky. Il refuse de la main, ne veut pas boire. Elle insiste. Il prend une lampée sous les yeux de Paula. Une seconde. De ce temps, elle déplie le billet qu'elle tenait dans ses mains. Il lit un petit mot, tout replié, abîmé, lu et relu. Ricky s'en rend compte. Elle doit avoir des nouvelles d'Espagne. Il lui dit. Elle n'écoute pas. Il lui demande. Vous avez des nouvelles d'Espagne ? Elle acquiesce. Alors ? Alors c'est pire. Quoi ? Ricky demande comment elle sait. Comment vous savez ? Paula ne répond pas. Sous l'eau, prise dans l'eau, Paula voudrait s'y jeter tout entière. Sa tête touche presque le dessus des vagues, rejoindre le fond. Ricky l'en empêche, lui attrape le bras et tient, faire demi-tour. S'éloigner du rivage, du casino, de l'alcool, de l'argent. Paula crie de ne pouvoir se jeter dans les vagues, s'égosille en arrachant sa main. « Lâche-moi !» il tient, les muscles de ses bras tendus. « Lâche-moi !» faire demi-tour, s'éloigner du rivage. Ricky pagaie. Dos au casino, elle se relève d'un coup. Elle lui demande s'il la veut. « Tu me veux ? C'est pour ça que tu me ramènes ?» Il ne répond rien. Elle se rassoit et montre devant elle. On va au casino. Ricky et Paula s'approchent du casino, fendent les vagues sans bruit, silencieux. Côte à côte, Ricky tient toujours le bras de Paula. À côté d'eux, d'autres pêcheurs débarquent les sirènes du casino. Les barques avancent plus ou moins vite, accélèrent juste avant l'arrivée au port et les déposent. Ils les regardent flotter dans leurs robes pailletées le long de la berge venteuse, puis s'engouffrer sur la terrasse bondée du casino, se fondre dans la masse. Vous allez leur dire ? Je sais pas. Pourquoi ? Merde, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ricky lui lâche le bras et la laisse partir. Titube. Paula marche mal, abattue par l'alcool et sa fatigue des soirs de tristesse. Elle avance en hésitant. Ricky le remarque, voudrait lui dire de revenir sur la barque, qu'il la ramène au voilier, de ne pas se mélanger au reste de la poiscaille. Elle ne se retourne pas, marche seule. Tout à coup, elle s'étale au sol. Sur les cailloux, tout entière. sur la terrasse du casino, face à l'océan, Paula est la seule assise. Elle regarde la nuit. On lui demande si elle va bien. Elle tient fermement ses mains fermées sur son papier resserré. On lui redemande si elle va bien. Tu danses pas ? On insiste comme elle ne répond pas. Comme accroupie sur une enfant, les gens se baissent. Paula, on l'appelle. Paula. Elle regarde ailleurs, dedans, la grande salle, bondée. Écoute la musique de fête. À l'intérieur, des couples dansent sur la musique du fond de la pièce, brouillonnent à cette heure de la nuit, étouffés par les râles des hommes sous et le tintement des jetons de casino. Déjà, on crie. Les couples au milieu de la pièce ignorent les bruits, tournent et tournent. On amène un verre de vin à Paula, le verre devant sa gueule. Elle voit mal à travers. Elle boit, sans soif. Elle peut boire sans soif, elle le sait. Elle le dit. L'homme à ses côtés, à genoux, lui parle doucement, lui demande « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa main sur Paula, tendre. Elle s'écarte un peu. Boit. Ça va pas ? Elle boit. Il l'empêche de boire, veut trinquer avec elle. Qu'est-ce que t'as ? Elle tourne sa tête de gauche à droite et ravale son hoquet. Ricky, à pas d'heure, est encore au port. Pas qu'il en ait une raison certaine, mais des soirs, il aime prendre le temps de jeter des cailloux dans la mer. Puis, écoute comme il s'y engouffre d'un coup. Il jette des cailloux et des cailloux, se rapproche dangereusement de la musique de fête, des lumières du casino, de Paula sur la terrasse, accoudée à la rambarde. Debout sur la première marche de l'escalier, Paula hésite à monter celle d'après. La rambarde est en bois, elle le voit. Les marches en marbre, belles. Elle manque de tomber, son verre à la main trinque sur la rambarde. Elle se tourne face au monde. Elle a l'allure de quelqu'un qui veut porter un toast. Elle manque de s'élancer, puis face à elle, au milieu de la salle, Victoria et Sophia dansent ensemble, au milieu des autres. Elles n'existent que l'une attachée à l'autre, suspendue, défiant la gravité, joyeuse, ivre. Paula n'a pas le courage de sa nouvelle. Elle se ravise, redescend une marche, marbre, une autre, marbre, une autre, marbre. quelque chose de peur dans les pas. Ricky marche malencontreusement sur les rochers, tout au bord de l'eau. Les vagues lui paraissent une menace incroyable. Il les fuit comme il peut, accélère pour atteindre le casino. L'eau monte. Il accélère encore. L'eau monte encore. Une vague le prend aux cuisses, manque de le faire tomber. Il court, atteint l'escalier du casino. Face à l'océan bouleversé, la devanture du casino crisse. C'est de grandes portes, lourdes. Paula y met tout son poids dessus. Les portes résistent, à peine, puis cèdent. Elles se ferment. Paula ferme les portes du casino, une à une. La musique de fête se fait lointaine. Étouffée. Les gens à l'intérieur, sous et moites de danse, ne s'aperçoivent de rien. Elle les laisse dedans, dansant, les ferme à clé. Noctambule. Ricky, derrière elle, regarde vers l'intérieur du casino. Son visage fait de la buée. Des formes agglutinées nagent derrière la vitre. Une musique les attire et les sépare, en rythme, toutes ensemble, mouvantes et éparses, électriques. Il se dit qu'il pourrait faire la fête avec elle, pour une fois, ce soir, laisser sa barque amarrée et rentrer à l'aube, sous, titubant sur les flots. Il veut entrer. Les portes sont fermées à clé. Les formes sont closes. Closes sur elles-mêmes. Inaccessibles de luxe et de vanité. Et tout à coup, il est en colère. Vous les laissez dedans ? Paula, face à l'océan, ne se retourne pas. J'ai rien dit. J'ai rien pu leur dire. Laisse-les danser, qu'ils s'amusent encore un peu. Ricky s'approche d'elle, furieux. Qu'ils s'amusent ? Vous faites ça ? Les laisser ignorants pendant qu'on tue leur famille ? Paula lâche les yeux de ses flots. Ricky est là, collé à elle. Vous êtes égoïste, donnez-moi cette clé. Paula le regarde, droit. De toute sa hauteur, fixe, sans bouger, face à face, sans rien dire. Elle le gifle, Paula le gifle, violemment. Une force qui déracine Ricky. Il a un pas de recul. La violence dans les yeux de Paula. Il se rue sur elle pour reprendre la clé. Elle résiste, s'étiole. Fond au sol presque et se retire de sa poigne. Il la rattrape, la resserre. Elle étouffe, elle le griffe, il s'éloigne. Elle le menace, la clé au-dessus des flots, suspendue. Elle crie à l'océan qu'elle ne veut pas de sa guerre. Une rage telle, sa voix est déformée, profonde et rauque, animale. C'est injuste. Elle hurle que c'est injuste. Qu'elle ne veut pas qu'il meure, qu'elle ne retournera jamais là-bas et que non plus. Que ses amis resteront là, en France, cachés par elle de la guerre, avec elle, ici. Qu'ils ne mourront pas. Jamais. Aucun. La clé se fait happer et relâcher par l'océan démonté. Dessous les vagues, elle racle le sable, dans un sens, puis dans l'autre. Ricky l'entend, rappeuse, la sent au fond de l'eau, comme il la sentirait dans le fond de sa gorge. Ce goût de fer, amer, lui donne la nausée. Il court la rattraper, la chercher, fonce contre les vagues et ratisse le fond. De ses mains épuisées, il ratisse le fond tout entier, dans l'eau jusqu'à la taille, puis jusqu'aux épaules. Il fouille. Les vagues violentes arrachent la clé du sable, saisies, ravalées et relâchées. Ricky panique. C'est sans espoir, les vagues. Dans la folie de ses recherches, Ricky ne remarque pas l'ombre de Paula qui s'agrippe à son dos, les bras qui, tout doucement, l'encerclent. La sensation que la recherche est vaine l'envahit. Terrible. Il n'avance plus. Paula enlace Ricky. Comme si sa peau avait arrêté d'exister, Paula s'effondre sur Ricky. Ses mains la grippent dans l'eau, se noient de lui, se perdent. Résister ne sert à rien. Paula se mélange à lui. Sous leur poids nouveau, leurs jambes rompent. Ils s'étalent sur le sable. L'eau froide jusqu'à la gorge. Leur corps fusionné dans le remous, écume. À force, sous l'agitation de l'eau, prémisse de la peur, Paula et Ricky se vident d'eux-mêmes, dégorgent de leurs êtres. Et deviennent eau, au milieu de l'océan, sans distinction, perdu. Ce corps nouveau, ballotté vague après vague, s'engouffre dans les replis des flots, tiré vers le fond, happé vers le large. La tête en dessous des vagues, les oreilles bourdonnantes. Ondulant. L'océan même acquiert l'épaisseur d'une peau. Les lueurs à l'horizon se confondent avec les écailles de la mer. Vaguelettes vertes et bleues. Mouvante, haletante.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence!
Clap. Le cinéma qui s'écoute.